Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce lundi de Pentecôte est Antoine Kiefer, responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan. Il est venu au micro de la matinale, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'Europe et de politique. C'est un sujet qui revient beaucoup sur notre antenne ces temps derniers, mais voilà, campagne pour les élections européennes oblige. Beaucoup d'actualités qui va nous ramener peu ou prou à la France et qui va nous conduire, pour commencer, en Nouvelle-Calédonie, où on pourrait dire que c'est le chaos là-bas en Nouvelle-Calédonie avec ces émeutes qui ont déjà fait 5 morts, dont 2 gendarmes. Et l'expression de Marine Le Pen, on va y revenir, mais j'imagine que ça préoccupe le Rassemblement National, ce qui se passe là-bas. Loin de nous, mais finalement si près de nous.
Oui, c'est un morceau de France qui est éloigné des yeux et du cœur de la Macronie et d'Emmanuel Macron. C'est la France des Outre-mer qui nous est chère, qui est chère à Marine Le Pen, à Jordan Bardella. Et c'est vrai que ce qui se passe là-bas, de voir des Français se battre contre d'autres Français, c'est une situation qui est déchirante. En plus... des drames qui ont survenu. Voilà, donc effectivement, nous avons une position que Marine a rappelée jeudi, quand elle est passée sur France 2, où effectivement, nous avons une position de fermeté à l'égard des violences, mais nous avons également une position de proposition, de responsabilité face à la situation qui est celle actuellement.
Avec une expression justement qui est un peu surpris dans la bouche de Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle se positionne déjà en chef de l'État, puisque elle a, pour reprendre ses propos, plaidé pour un compromis finalement en Nouvelle-Calédonie, avec une discussion avec les indépendantistes, alors que jusque-là les positions du RN et avant même du FN étaient quand même plutôt du côté des loyalistes.
Eh bien... En fait, la situation est telle que, de toute façon, le problème va devoir être réglé. Et les décisions qui ont été prises, ou du moins la situation dans laquelle Emmanuel Macron a laissé la Nouvelle-Calédonie, nous oblige à prendre en compte, évidemment, le vote qui a été celui des Néo-Calédoniens, mais également la situation qui est en feu actuellement sur l'île. Pour revenir à ce propos de Marine qui était sur France 2 jeudi dernier, elle a eu une position, comme on l'annonce depuis de très nombreux mois et de très nombreuses années, nous sommes devenus, il fut un temps, partie d'opposition, de contestation, et nous avions annoncé que notre volonté était d'accéder au pouvoir, pour changer les choses et améliorer le quotidien des Français. Donc effectivement, nous avons une position de fermeté à l'égard des violences. L'ordre républicain doit être de retour, mais on ne peut pas non plus nier la situation dans laquelle Emmanuel Macron a laissé l'île. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme l'a rappelé Jean-François Merle, ancien conseiller de M. Rocard, vous voyez, c'est pas non plus notre tranche politique, mais a rappelé que Emmanuel Macron a laissé la Nouvelle-Calédonie depuis le traité de Nouméa, où il devait y avoir une réunion annuelle des signataires, des co-signataires, pour faire le point. Depuis 2019, nous sommes en 2024, il n'a pas réitéré ses réunions annuelles pour faire le point. Ils ont unilatéralement pris des décisions depuis Paris, sans consulter qui que ce soit.
Et aujourd'hui, sans écouter aussi le retour du terrain.
Voilà, sans écouter le retour du terrain. Alors, il ne faut pas s'étonner que, mais on peut prendre les Néo-Calédoniens, mais en réalité, Emmanuel Macron réagit et dirige la France de cette manière dans tous les domaines. Tous les domaines sont à feu et à sang, quel que soit le domaine régalien, l'énergie, le pouvoir d'achat, tout est dans une situation absolument dramatique.
Sur la Nouvelle-Calédonie, avec ce compromis, ce texte, parce qu'il faut rappeler que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce texte qui change finalement la composition du collège électoral, on le simplifiera de la sorte. Est-ce qu'il fallait mettre en sourdine ce texte? Est-ce qu'il fallait attendre? Est-ce que ce n'était pas le moment opportun pour le voter?
Ça n'était pas le moment opportun. En pleine élection, en pleine campagne, effectivement, je pense que réaliser ça avec la Macronie et Emmanuel Macron, je pense que c'est quelque chose qui tend la situation plus qu'autre chose.
Avec des difficultés
ce n'est pas un terrain apaisé, on va dire. Voilà, ils ont des enjeux particuliers dans ces élections européennes. Ils sont un peu embêtés parce que effectivement, ils sont obligés de gigoter un peu dans tous les sens pour pouvoir espérer faire des meilleurs scores. Et non, c'est vrai que ce n'était pas le bon moment.
Avec des difficultés pour protéger aussi les Calédoniens qui font face à cette violence, des forces de police qui sont aussi appelées à d'autres tâches. On imagine que les Jeux Olympiques qui arrivent vont mobiliser beaucoup. On parle aussi de la déstabilisation. Le pays de l'Azerbaïdjan a été cité, qui a d'ailleurs répondu par un communiqué très cinglant à l'endroit de la France. Mais il y a aussi la Russie. Et on parle aussi de l'ombre de la Chine. Le nickel intéresse et on sait que la Nouvelle-Calédonie, c'est le deuxième gisement de nickel au monde.
La France est un grand pays. La France, c'est le pays où le soleil ne se couche jamais. La France, c'est le deuxième territoire maritime au monde. Donc effectivement, lorsque un territoire français, il faut le rappeler, c'est un territoire français. Les Néo-Calédoniens ont voté pour rester à l'intérieur de la France et rester français. Malgré que Emmanuel Macron, à la suite de ses accords, n'ait pas tenu la ligne directrice sur comment les consultations régulières pour avoir une sensibilité du terrain, voir comment la chose évolue. C'est un territoire français, ce sont des Français. À la même image que Mayotte, à la même image que La Réunion, que la Guadeloupe, que les Martiniquais sont des Français. Donc effectivement, lorsqu'un territoire est attractif au niveau géopolitique, au niveau des matières premières, lorsque un État est faible à l'intérieur d'une Union européenne qui détruit les nations, effectivement, oui, les pays, malgré les communiqués, il ne faut pas être dupe, en profitent s'ils le peuvent pour déstabiliser.
Alors on a cette déstabilisation en Nouvelle-Calédonie, et puis il y a aussi la situation en France avec une actualité qui percute une autre, et c'est le cas avec cette attaque d'un fourgon la semaine dernière, fourgon pénitentiaire dans l'Eure, au cours de laquelle deux agents pénitentiaires sont morts et trois autres ont été grièvement blessés. On a vu le Rassemblement National s'exprimer sur la sécurité, on sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce qu'il faut prendre à bras-le-corps tout ce qui concerne le trafic de drogue, puisque là on est dans le trafic de stupéfiants, trafic international, et on voit que les délinquants ne reculent devant rien pour libérer l'un des leurs.
Oui, alors, on peut prendre l'exemple de Marseille. L'exemple de Marseille où Emmanuel Macron a voulu faire un grand coup de com' et où finalement ils ont démanteler des lieux de deal et ainsi de suite. Et puis finalement, ces lieux de deal se sont remis en place quelques heures, quelques dizaines d'heures, quelques jours plus tard. Tant qu'ils n'auront pas compris que l'action, que les décisions politiques doivent être prises pour juguler réellement ce mal, eh bien, tout cela ne changera pas. Et des jeunes hommes comme ces jeunes hommes qui ont perdu la vie, eh bien, continueront de perdre leur vie face, effectivement, comme vous l'avez dit, à des délinquants qui n'ont peur et qui ne reculent devant rien, puisque de toute façon, interceptés une fois, interceptés 10 fois, interceptés 20 fois, eh bien, de toute façon, ils auront des peines qui ne seront pas à la hauteur des crimes ou des délits qu'ils ont commis.
La prison ne fait plus peur aujourd'hui. Il faut réformer là aussi tout le système pénitentiaire français.
Oui, il faut tout réformer. Il faut réformer, il faut construire des places supplémentaires. Il faut nous permettre également d'obtenir des places de prison en renvoyant les délinquants étrangers et les criminels étrangers dans leur pays d'origine. Et ça encore, c'est une question de diplomatie. Notre diplomatie, où est-elle? Où mm-hmm. est-elle? Qu'a fait Emmanuel Macron de notre diplomatie sous son premier quinquennat et sous son morceau de deuxième quinquennat? La France va très très mal dans tous les domaines et je pense que on en parlera certainement, mais les sondages qui arrivent montrent que nous avons effectivement les solutions pour les Français. Les solutions, les propositions, nous avons surtout le courage de les mettre en œuvre.
Il y a une attente, en tout cas, qu'expriment les Français. Autre sujet, le Proche-Orient avec la guerre entre Israël et le Hamas et les conséquences qu'elle a depuis le 7 octobre, depuis les massacres du 7 octobre ici en France. On a vu le nombre d'actes antisémites exploser. Le dernier en date, c'était vendredi à Rouen avec l'incendie de la synagogue de Rouen et un homme armé d'un couteau et d'une barre de fer qui a été abattu par les policiers qu'il menaçait. On a l'impression d'un cran supplémentaire dans les actes antisémites. Est-ce que là aussi, il va falloir à un moment dire stop?
Oui, et il va falloir également prendre des décisions. Il va falloir à nouveau mettre le doigt, mais pas seulement le doigt, et les mots sur le mal du fondamentalisme islamiste, par exemple, de ces mosquées radicalisées, de ces prêcheurs de haine qu'on laisse à nouveau toujours prêcher au sein de ces mosquées. Il y a énormément de choses à faire. L'attitude également de certains responsables politiques, leur attitude à l'égard de ces dérives, pour ne pas citer la France insoumise. Voilà, donc effectivement, il va falloir faire beaucoup de choses. Il va falloir remettre la France en ordre. Et je pense que les Français attendent cela, et c'est pour ça qu'ils se tournent de plus en plus vers notre mouvement, et Jordan Bardella et Marine Le Pen, et surtout pour les élections européennes, oui.
Alors on va en parler des élections européennes, voilà, il était utile aussi de faire un petit peu le tour de l'actualité un peu plus française, hein, en tout cas un peu plus locale si vous me permettez par rapport à l'Europe. Il y a une attente des Français, en tout cas on le voit à travers les sondages, Jordan Bardella est très bien placé, on le donne à plus de 32%, alors là encore ça va rester des chiffres et des sondages, on va rester prudent, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'intentions de vote qui se tournent vers le Rassemblement National. Et un sondage qui nous a attiré ici à la rédaction de Bretagne 5, un sondage qui concerne évidemment la Bretagne, donc forcément ça a attiré notre attention, un sondage qui fait état de 27 à 29% des intentions de vote pour la liste RN aux européennes ici en Bretagne. Est-ce qu'on assiste à une forme de révolution politique, en tout cas de révolution dans les mœurs des Bretons qui se tournerait vers le Rassemblement National alors que c'est pas forcément une des terres d'élection du Rassemblement National?
Oui, c'est une terre qui est très bridée, on va dire, au niveau journalistique, au niveau de l'information. Il y a une musique qui a toujours été la même depuis très longtemps. Les Bretons ont souvent été épargnés de très nombreux mots au niveau européen, au niveau français, qu'il s'agisse du niveau économique, sur les entreprises. Comme on a pu le voir dernièrement, hein, les défaillances d'entreprises atteignent les 6,5%, hein, en explosant le record de 2009. Et effectivement, les Bretons ne sont pas épargnés au niveau non plus du pouvoir d'achat. Ils ne sont pas épargnés et se posent des questions, observent, discutent, échangent. Et quand on voit, alors vous aviez dit jusqu'à 29%, ça fait quasiment une personne sur trois. Donc les gens se disent effectivement, quand je croise quelqu'un dans la rue, une chance sur trois pour qu'il ait peut-être les mêmes idées. Ou alors les gens qui ne sont pas forcément convaincus se disent, et pourquoi pas essayer, pourquoi pas s'intéresser, pourquoi pas décortiquer également nos propositions. La Bretagne, effectivement, oui, devient une terre de plus en plus patriote, nationale, et s'intéresse aux propositions du Rassemblement National, de Jordan et de Marine.
Alors, il y a une peur du Rassemblement National aujourd'hui. On le voit d'ailleurs dans le discours politique, dans l'expression politique, dans les débats autour des élections européennes, où souvent la peur, c'est le Rassemblement National. Et on entend peut-être un petit peu moins les différents responsables politiques sur les programmes véritables. Alors, j'ai envie de vous entendre, moi, sur le programme du Rassemblement National pour ces élections européennes. On va commencer par les sujets assez, j'allais dire, récurrents au niveau de RN. Je pense à l'immigration aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un véritable plan immigration au niveau de l'Europe ?
Alors, au niveau de l'Europe, il y a des décisions également qui doivent être prises. Évidemment, M. Leggeri nous a rejoint, ancien directeur de Frontex. Il a pu constater que Frontex était devenu au fil du temps une agence non pas de protection des frontières, mais une hôtesse d'accueil des migrants. Voilà, ils allaient directement récupérer les bateaux en Méditerranée pour les ramener sur les côtes italiennes. C'est ça aujourd'hui, l'immigration au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas un problème, c'est un projet.
Mmh.
Donc effectivement, il faut une double paroi, c'est-à-dire une double frontière de protection au niveau national et une frontière de protection au niveau européen pour tous les pays européens, car c'est un problème majeur et qui ne fait que commencer en prenant compte la démographie et la potentielle démographie à venir des pays africains.
Mmh.
Donc c'est un problème pour nous au niveau économique, c'est un problème au niveau identitaire, c'est un problème également pour eux.
Mmh.
C'est un problème pour eux car leur jeunesse s'en va, leur richesse s'en va, et des pays se font piller de leur potentiel et de leur perspectives d'avenir.
Mmh.
Voilà. Nous respectons les nations, nous respectons toutes les nations. C'est pour ça que nous sommes patriotes et nationaux, et que nous aimons les nations en Europe également, et que nous voulons une Europe des coopérations et des nations. On ne peut pas avoir cette vision de se dire « faisons venir de la main-d'œuvre à bas coût pour baisser les salaires en France, et puis soyons satisfaits de piller à nouveau ces pays de leur richesse intellectuelle et Emmanuel.
Mmh. Il y a aussi les grandes questions. On va les balayer, hein, Antoine Kiefer. On ne pourra pas aller au fond des choses. C'est un peu court dans une matinale pour tout explorer. Mais je vous parliez tout à l'heure du pouvoir d'achat. On voit aujourd'hui que le pouvoir d'achat, bien pour les Françaises, pour les Français, pour plus largement pour les Européens, c'est souvent le coût du logement, le coût de l'énergie quand ils arrivent à se loger. C'est pas toujours évident. Le coût de l'énergie, on a entendu beaucoup de discussions autour du coût de l'électricité en particulier. Faut-il, à un moment ou à un autre, revoir le calcul des coûts de l'énergie pour faire en sorte, et peut-être aussi les moyens de production, on pense au nucléaire, pour changer la donne et faire en sorte que les Français, les Européens puissent arriver à quitter leur facture d'électricité, tout simplement?
Oui. Il y a une absurdité aujourd'hui pour laquelle Emmanuel Macron et ses alliés, Madame Hayet, sont d'accord, adhèrent. C'est la tarification de l'énergie, l'AREN, au niveau européen. Cette tarification nous met dans l'embarras au niveau de nos particuliers, au niveau de nos entreprises, car nous payons plein pot l'énergie, alors que nous avons une production française, nationale, basée sur l'énergie nucléaire, avec nos centrales, un plan stratégique qui avait été mis en œuvre.
C'est Pierre Messmer.
Le plan Messmer, et le général de Gaulle avait effectivement cette vision de stratégie nationale et d'indépendance énergétique et de croissance également aussi industrielle. Tout ça est mis à mal uniquement par des décisions politiques. Et en réalité, nous sommes basés actuellement sur les prix du marché européen de l'électricité.
Mmh. Qui eux-mêmes sont indexés sur le prix
du gaz.
Voilà,
exactement. Mmh. Et ça que les Français doivent bien comprendre, c'est une décision politique et administrative. C'est-à-dire que le prix que vous payez, vous, à la maison, c'est une décision. Et la décision est la suivante. Nous prenons en compte l'énergie la plus chère sur le marché européen. L'énergie la plus chère étant le gaz, étant donné les tensions géopolitiques avec la Russie. Et les macronistes ne souhaitent pas revenir sur cela. Eh bien, nous souhaitons revenir sur cela, et ça permettrait aux Français et aux industries françaises de faire baisser la facture électrique de 20 à 30%.
Des pays l'ont fait, on pense au Portugal ou à l'Espagne.
Exactement, donc c'est possible, c'est faisable. Mais encore une fois, quand on veut être le meilleur élève de l'Union européenne et qu'on s'appelle Emmanuel Macron, eh bien on ne le fait pas.
Alors l'Union européenne aujourd'hui, elle est crainte aussi. Alors vous parliez tout à l'heure de l'Europe des nations, chère à un certain Charles de Gaulle en son temps. On parle pourtant de plus en plus d'Europe fédérale. Pour vous, c'est un serpent de mer, l'Europe fédérale ?
C'est un serpent de mer, effectivement, parce que nous pouvons, nous ne sommes pas déjà les États-Unis d'Amérique. Voilà. Chaque pays au sein de l'Europe a ses différences, a ses langues, ses coutumes, ses économies, et nous n'avons pas autant de similitudes que les États fédéraux aux États-Unis. Voilà, nous ne serons jamais un État fédéral européen. Comme le rêve Emmanuel Macron et Madame von der Leyen, ça n'est pas possible.
Il y a trop de disparités culturelles entre les États.
Effectivement, il y a trop de disparités. La question, c'est la suivante. C'est-à-dire que ce sont les deux projets différents. Nous, l'Europe des nations et des coopérations, et eux, une Europe qui commence actuellement dans cette campagne électorale, par certaines positions que l'on peut entendre par-ci, par-là, à assumer cette position fédéraliste. Cette position fédéraliste, pour ceux qui nous écoutent, c'est très simple. Diluer, faire disparaître, lisser. Voilà, c'est tout cela. C'est-à-dire, économiquement, voilà, se mettre au niveau des autres pays, par exemple de l'Europe de l'Est. Est-ce que vous souhaitez ça au niveau de vos salaires? Est-ce que vous souhaitez être abaissé au niveau économique? Est-ce que vous souhaitez être mis en concurrence au niveau industriel? Et c'est déjà le cas avec d'autres pays également. Mais c'est également, dans leur façon de penser, c'est également un État fédéral assez naïf. Parce que si c'était un État fédéral comme les États-Unis, qui savent se protéger contre la concurrence internationale déloyale et qui mettent ce qu'il faut en place au niveau politique pour se défendre,
des moyens considérables.
Effectivement, ce serait très bien. Mais actuellement, l'Union européenne, que fait-elle pour défendre les pays en son sein ? Rien du tout. Elle se laisse manger au niveau international. Nous sommes une anomalie, en réalité, une anomalie dans le monde actuel.
Avec de grands bouleversements géopolitiques, vous faisiez référence tout à l'heure à la Russie et à la guerre en Ukraine, la Russie qui se montre menaçante avec certains pays proches de l'Europe, et qui se montre même menaçante vis-à-vis de l'Europe et même de la France. On a la Chine, on le disait en commençant, avec des velléités sur l'économie mondiale, sur les ressources, on en parlait avec la Nouvelle-Calédonie et le nickel, et puis des changements possibles aux États-Unis avec le retour peut-être de Donald Trump aux élections de mi-mandat en novembre. Donald Trump qui a carrément dit, voilà, on ne protégera plus l'Europe, à vous de vous débrouiller, l'OTAN c'est fini. Ce qui corrèle aussi avec les propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit réfléchir pour une protection de l'Europe avec la force de frappe. Et la force de frappe, elle est en France aujourd'hui. Revient encore un autre serpent de mer, peut-être l'armée européenne.
Autre, voilà, exactement, un autre serpent de mer. Moi, je refuse catégoriquement de me faire défendre par quelqu'un de naïf ou par quelque chose de naïf. Une structure politique telle qu'est l'Union européenne aujourd'hui, je suis désolé, je ne partagerai pas ma puissance de dissuasion nucléaire. Je ne verrai pas non plus cette armée européenne qui pointe le bout de son nez. Hein, une histoire de 5000 hommes pour débuter, qu'est-ce que ça va devenir ?
Ils vont mettre une coopération entre les différentes armées, finalement, des pays européens ?
Non, moi je pense qu'il faut des armées nationales. Je ne pense pas que les Français seraient d'accord d'aller se battre pour les intérêts d'un autre pays et d'aller faire mourir leurs enfants pour les intérêts d'un autre pays. Je n'y crois pas. Je suis très sincère, très honnête, je pense que les Français ne le veulent pas. Donc les armées nationales et les dissuasions, comme la nôtre, que nous avons gagnées par ces décennies et par notre envergure au niveau international, nous ne pouvons pas brader notre défense pour une idéologie naïve, dangereuse et fédéraliste.
On parle aussi du siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies,
oui, voilà,
qui est très convoité depuis quelques années. Il a été à un moment évoqué la possibilité d'un siège européen. Là aussi, bonne, mauvaise idée?
Emmanuel Macron n'est pas sérieux. On pouvait en douter avant, parce qu'il y avait ce brouhaha médiatique, mais on l'observe actuellement. Il a des réactions qui sont puériles au niveau politique. Ça n'est pas mature.
Le en même temps, ça peut pas
fonctionner. Le en même temps est en train d'exploser.
Mmh.
On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas en même temps être le meilleur élève de l'Union européenne et défendre la France. On ne peut pas être en même temps le meilleur élève de l'Union européenne et défendre les agriculteurs. On ne peut pas être en même temps le meilleur élève de l'Union européenne et défendre notre industrie. Tout ça est aux antipodes l'un de l'autre. Ce n'est pas possible. C'est purement idéologique. Ça n'est pas pragmatique. On peut prendre tous les sujets. On regarde tous les sujets les uns après les autres. Il n'y a rien de pragmatique. Tout est idéologique. Et à la fin, on voit très bien qu'Emmanuel Macron souhaite être uniquement un très bon élève.
Mmh. Il nous reste 5 petites minutes, Antoine Kiefer. C'est court hein, pour balayer tous les sujets là encore. 3 minutes, me dit même notre réalisateur. Il manque un dessin à l'Europe, ou alors peut-être un dessin à chaque nation qui compose l'Europe. On ne pense plus à long terme, on n'a plus les codes pour aller plus loin, pour avoir de grandes visées.
Oui, mais ça peut être aussi des coopérations, ces grandes visées. Ariane, Airbus, pourquoi pas une coopération sur le médicament, par exemple. On a vu qu'il y avait des grosses problématiques pendant la crise Covid, où nous étions dépendants d'autres pays sur la production de médicaments. Cette vision long terme, elle peut se faire uniquement quand on a l'intérêt des Français et de la nation chevillé au corps. Et ça n'est pas le cas d'Emmanuel Macron et des macronistes.
Allez, je voulais vous entendre aussi sur deux choses. Emmanuel Macron a proposé un débat à Marine Le Pen qui a dit oui, je suis d'accord, mais c'est peut-être pas le moment. Qu'est-ce que vous en pensez?
Elle a précisé ça de manière très claire également jeudi dernier. Elle a dit la chose suivante, elle a dit effectivement je suis d'accord pour un débat. Mais à ce moment-là, Emmanuel Macron devra présenter sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale.
Pourquoi? C'est conditionné.
C'est conditionné. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut pas faire le en même temps du macronisme et une position gaulliste. Le général de Gaulle et la constitution que nous avons actuellement de la Ve République précisent très bien que le chef de l'État, le président de la République, est au-dessus des partis.
Mmh.
Et Emmanuel Macron, en entrant dans le débat politique de cette élection européenne, n'est plus le président de tous les Français. Alors, effectivement, s'il souhaite entrer dans l'arène politique à nouveau, peut-être que ça lui manque, eh bien, il devra en payer les conséquences. Et effectivement, si nous arrivons vainqueurs de ces élections, il devra présenter sa démission, ou il devra dissoudre l'Assemblée nationale.
C'est en tout cas ce que Jordan Bardella appelle de ses voeux. Jordan Bardella qui va débattre, lui, avec Gabriel Attal dans 3 jours maintenant. En quelques secondes, vous attendez beaucoup de ce débat?
Je pense que ça va être un débat qui va être tout de même de fond. Si ce débat n'est pas de fond, ce qu'attendent les Français, surtout du Premier ministre et de Jordan Bardella, Jordan Bardella sera évidemment sur des sujets de fond. Mais si effectivement le Premier ministre tergiverse, part dans l'émotion, dans les pics, eh bien les Français pourront à nouveau constater que le pouvoir en place a beaucoup de gesticulations mais n'a pas de solution.
Voilà, on va donc attendre le 23 ce débat entre Jordan Bardella et le Premier ministre Gabriel Attal. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Kiefer. Je rappelle que vous êtes responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan. Vous étiez en direct ce matin, jour férié, au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Eh bien, une très belle journée à vous aussi et à tous les auditeurs.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.